Alors bonjour Sébastien Louis, alors, on vous est au téléphone hein, donc pour nous parler d'un événement qui va se dérouler à la médiathèque centrale Émile Zola. C'est la grande médiathèque de Montpellier. Donc c'est un événement qui est organisé par la Dante Alighieri et nous avons Marie-Antonietta Lenzi à côté de nous pour pouvoir en parler. Alors c'est autour de votre livre qui s'appelle « Ultra, les autres protagonismes du football ». Alors, on va parler football, mais pas que, si j'ai bien compris. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre ?
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous en ligne. Alors, l'idée de ce livre, elle naît sur une réflexion sur les groupes ultra. Les groupes ultra, c'est des supporters très actifs que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier, qui sont souvent derrière le but, composés de jeunes gens, et qui vont soutenir avec passion et en chantant pendant 90 minutes leur club. Donc à Montpellier, par exemple, ce sera la Butte Paillade.
Oui.
Et donc, ces supporters, c'est un phénomène qui est né en Italie. Le phénomène ultra, il a vu le jour en Italie entre 1967 et 1971. Il s'est diffusé à partir des années 80 dans le reste de l'Europe et au 21e siècle dans le reste du monde. Et ce qui était intéressant, en travaillant sur ces groupes de supporters, j'ai compris que c'était un miroir déformant de la société italienne. Et ça a permis en fait de retracer l'histoire de la jeunesse italienne de ces 60 dernières années.
Et oui, et souvent les ultras représentent, alors c'est à la fois des groupes très très soudés, et puis des fois dans le même club, il y a des ultras, il n'y a pas qu'un groupe, hein. C'est des fois des antagonismes même.
Tout à fait, car c'est un petit peu comme les groupes trotskistes, c'est-à-dire chacun est persuadé de connaître l'ABC de Karl Marx, et bien les supporters ultra sont persuadés d'être les meilleurs. Et donc ça peut créer effectivement des antagonistes entre groupes qui soutiennent le même club. Ça peut sembler bizarre, mais tout simplement c'est des questions de philosophie. Certains estiment qu'il faut soutenir d'une telle manière, d'autres d'une manière différente, et donc cela peut créer des divisions. Mais la plupart du temps, ils sont unis pour soutenir avec ferveur et passion leur couleur.
Et puis des fois on s'en rend compte aussi qu'il y a un marquage politique hein, dans les ultras hein. C'est nettement en Italie notamment, mais pas qu'en Italie.
C'est très juste, les groupes de supporters ultra, comme je l'ai dit précédemment, reflètent en partie les évolutions d'une société. Donc dans mon livre je l'explique, en Italie au début de la naissance du phénomène ultra, donc entre 1967 et 1971, ils vont souvent s'inspirer des groupes d'extrême gauche, des groupes extra-parlementaires qui peuplent la péninsule de l'époque. Ce n'est pas un hasard si l'un des premiers groupes ultra de l'AC Milan, les Brigate Rossonere, s'inspire clairement des Brigate Rosse et les Brigades Rouges, le groupe terroriste d'extrême gauche connu pour ses faits dans les années 1970. Par la suite, lors des années 1980, dans la deuxième partie des années 1980, on va plutôt voir des symboles d'extrême droite apparaître. Pourquoi ? Car l'Italie se transforme d'un pays d'immigration, elle devient un pays d'émigration, et donc de plus en plus d'étrangers arrivent en Italie. Il y a une réaction des partis racistes, populistes, xénophobes vont naître durant ces années, et bien évidemment, ces choses, on les retrouve dans les stades avec des phénomènes comme le racisme dans les stades. Attention, cela concerne uniquement une minorité. La plupart des groupes ultra ne sont pas politisés.
Mais par exemple, quand on connaît un petit peu le football, on voit à la Lazio di Roma, hein, c'est vraiment des groupes très 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 engagés politiquement à droite. Hein, nous sommes bien d'accord hein, dans la Lazio. Et puis par contre, à la Roma, qui est l'autre club de Rome, c'est pas le cas. Donc c'est toujours comme ça un peu. Hein. On s'en rend compte à Turin, on s'en rend compte même à Gênes, si je me souviens bien, entre les deux clubs. Il y a toujours on soutient plutôt un club ou un autre en fonction un peu de sa sociologie, de qui on est, d'où on vient, de quel groupe, de quel quartier on vient.
Alors non, c'est un petit peu plus compliqué, car tout simplement, on soutient un club, des fois c'est des raisons. Alors il y a un vieux slogan qui dit de père en fils, mais c'est souvent faux, la preuve, il y a de plus en plus de femmes dans les groupes ultra, et des fois au contraire, c'est la maman qui va transmettre la passion. J'ai rencontré justement un ultra de la Roma, un fréquenteur quelqu'un qui fréquente la Curva Sud, et il me disait que sa mère était de la Lazio et son père de la Roma.
Ah,
finalement,
oui,
c'est son père qui avait réussi à lui faire adhérer aux couleurs giallorossi. Alors en ce qui concerne la politique, il faut aussi s'en méfier. C'est-à-dire que dans la Curva della Lazio, on n'a pas que des gens qui pensent tous de la même manière. C'est une minorité qui impose ses idées au reste. Mais cette minorité, c'est une minorité qui a un rôle, car ce sont souvent des leaders de groupe, et donc ils imposent cette coloration politique. Il faut aussi se méfier, car tous dans la courbe nord de la Lazio ne sont pas néofascistes,
bien
loin
sûr,
de là. Néanmoins, ça révèle quelque chose, car Rome, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Italie, dans les 40 dernières années, était une des capitales de la jeunesse néofasciste. Il y a de nombreux groupes néofascistes qui sont sur le terrain, et donc certains infiltrent les curvas. Attention, d'autres ne les infiltrent pas. Comme je l'ai dit, il y a aussi une dimension provocatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre un symbole politique d'un bord ou de l'autre, c'est une manière aussi de moquer un petit peu la politique actuelle. Donc il faut quand même se méfier de cela. D'ailleurs, on peut voir des symboles contradictoires dans un même virage. À Perugia, pendant longtemps, il y avait un groupe qui se réclamait d'extrême gauche et l'autre d'extrême droite.
Et ils étaient pourtant dans le groupe Ultra ensemble. Donc si
ils étaient
juste derrière les buts aussi, un de chaque côté.
Tout à fait. Ils étaient dans la même tribune. Ils étaient dans la
même tribune, c'est ça.
Tout à fait.
Ouais. Donc c'est assez étonnant. Bon, c'est un phénomène très très intéressant que vous relevez. Et puis surtout, ça permet, comme vous disiez au début, d'avoir une photographie de cette jeunesse italienne dans la fin des années 60, 70. Hein, nous sommes dans ces eaux-là.
C'est ça, exactement. Car en Italie, comme dans le reste de l'Europe occidentale, cela peut paraître paradoxal, mais la jeunesse, elle va naître à la fin des années 1950. La jeunesse, auparavant, n'existait pas. Les gens, la majeure partie des gens faisaient partie des classes populaires, et donc on travaillait à 13 ou 14 ans. Avec la croissance économique, et notamment le miracle économique italien, et le miracolo economico, de 1958 à 1963, car la jeunesse apparaît, c'est-à-dire pour la première fois, on a des jeunes gens qui disposent de temps libre et d'argent, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ces jeunes gens, dans une société conservatrice catholique comme est l'Italie, ils vont tout simplement investir le stade. Pourquoi les stades ? Car c'est un loisir accessible, populaire, et en plus c'est vu à l'époque comme un loisir familial, c'est-à-dire que ces bandes de jeunes peuvent aller au stade sans les aînés, c'est-à-dire à 12, 13, 14 ans, on va au stade sans ses parents, et donc ils vont se regrouper dans des clubs de supporters qui vont un peu à peu se métamorphoser et devenir des groupes ultras.
Et c'est donc un peu l'âge de l'adolescence, donc l'âge où tout arrive, hein, où tout se modifie, et donc faire partie, avoir une identité quand on est adolescent dans un groupe, c'est très important. Donc c'est pour ça que ce phénomène se retrouve dans le football, hein, certainement.
C'est fondamental, effectivement, vous l'avez très bien décrit. Et il faut comprendre, par exemple, aujourd'hui, la plupart des groupes ultra en Italie sont composés de jeunes gens, mais également cela peut aller jusqu'à 50, 55 ans, voire même 60 ans. J'étais avec quelqu'un qui avait 58 ans ce week-end à Campobasso, et qui fait partie du groupe Ultra, et pourtant il a 58 ans. Pourquoi ? Mais tout simplement, aujourd'hui, c'est quoi les limites de la jeunesse ? Tout le monde veut être jeune. D'ailleurs, le symbole lui-même, c'est Berlusconi. Vous vous souvenez ?
Ah oui. L'éternelle jeunesse,
exactement. Et donc, faire partie d'un groupe Ultra en Italie, aujourd'hui, ce n'est plus le quitter à 25 ans comme auparavant, dès les premières responsabilités, le premier travail, les enfants, mais au contraire, on continue parce qu'on veut être éternellement jeune, forever young, pour toujours jeune. C'est ça un petit peu le rêve des Italiens. D'ailleurs, c'est aussi une culture, vous savez, du corps, de l'apparence en Italie.
Oui, et dans d'autres pays, on peut penser au Brésil notamment, où cette culture est très très forte. Mais c'est pas tout à fait la même culture au niveau des ultras, je crois. Là, on est tout à fait ailleurs.
On revient au Brésil, et dans d'autres pays, on a d'autres cultures de supporterisme. La culture ultra a ses propres codes. D'ailleurs, il ne faut pas la confondre avec celle des hooligans. On est dans un autre univers.
Les hooligans, qui sont nés en Grande-Bretagne, et qui maintenant, ça a complètement changé aussi, le football en Grande-Bretagne, du fait, alors là, c'est le contraire, c'est du fait que ça devient de plus en plus cher. C'est par l'argent qu'on a réussi à faire sortir les quartiers populaires de Liverpool ou de Manchester, hein. ou de Londres, en construisant des stades magnifiques, etc., mais dont les prix des places sont vraiment, c'est plus possible pour la jeunesse ouvrière.
Exactement, il y a une gentrification des stades en Grande-Bretagne, car une transformation aujourd'hui, il faut savoir que le football professionnel n'est plus un sport, c'est une industrie du loisir. Et donc l'idée, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Le football est un instrument également géopolitique, c'est un instrument économique, et ce n'est plus du tout le sport à 11 contre 11. Hein. Il faut être naïf pour croire qu'aujourd'hui, il suffit juste de regarder la Ligue des Champions, il suffit juste de voir les montants qui sont investis, mais regardez également les prix des places, hein, lors des compétitions européennes ou lors de la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Et l'idée, c'est tout simplement gentrifiés, se rencontrer. D'ailleurs, si on va dans un stade, c'est un espace extrêmement intéressant à étudier, que ce soit à Montpellier, que ce soit en Italie. On arrive à comprendre, en fait, quelle est la composition d'une ville, qui se rend à quel endroit. D'ailleurs, le nom de Butte Payade est vraiment aussi révélateur. Le lieu également, c'est-à-dire où se trouve le stade de Montpellier, qui est justement un quartier déshérité. Mmh. Donc il y a énormément de choses qui se jouent dans un stade.
Eh bien écoutez, on va faire une petite pause si vous voulez bien, et on va revenir avec vous pour la deuxième partie où on va pouvoir développer justement ces sujets de façon un peu plus longue.